Bienvenue sur Dieu et nous, un podcast pour t'aider à être plus dévotionnel et donc plus heureux dans la vie. Ici Cyril et Georges, et aujourd'hui c'est l'épisode numéro 3, et on va parler de quelque chose assez important, notamment...
L'avatar Chaitanya Mahaprabhu.
On va parler donc du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. 1, 2, 3, 4. Et parce que quoi, ça fait, c'est le troisième épisode, n'est-ce pas? Et donc,
oui.
Et donc, vous êtes en train d'écouter donc ce podcast, et comme vous voyez, on parle de Dieu, on parle de comment pratiquer la spiritualité dans un contexte moderne de tous les jours, etc. Mais Georges et moi, on appartient donc à une tradition issue de l'Inde, une des traditions monothéistes des philosophies ou des théologies yogiques ou Sanatan Dharma. Et en particulier, on est les grands fans, on suit un personnage, une personnalité qui est née ou qui est apparue, on dirait, en 1496, et qui s'appelle Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, Georges avait suggéré qu'on parle de ça, parce qu'en effet, cette personnalité, Chaitanya Mahaprabhu, dont on va parler dans ce podcast, figure vraiment au centre du centre du centre de toutes les traditions reliées à la bhakti, et surtout celles qui viennent donc de la... Ben d'ailleurs, elles s'appellent en anglais Chaitanya Vaishnavisme, quoi, du Vaishnavisme à la Chaitanya, ou du... Hein?
Oui, alors pour resituer un petit peu dans le contexte des religions indiennes, on peut dire qu'il y a différents avatars qui viennent à différentes périodes. Et bon, on sait qu'il y a 300 000 ans, il y a l'avatar Ram qui est venu, Ramachandra. On a eu Krishna qui est venu il y a 5000 ans. Il y a Bouddha qui est un avatar qui est annoncé il y a 5000 ans dans le Srimad Bhagavatam, qui vient pour ramener à lui, donner des préceptes aux athées. Et ça, c'est important de... Et donc, en fait, il y a un avatar qui vient dans l'âge d'ignorance dans lequel on est, qui s'appelle Chaitanya Mahaprabhu et qui est annoncé dans le Srimad Bhagavatam. Alors, j'ai préparé 2-3 notes.
Deux ou trois.
Il y a un texte dans le Srimad Bhagavatam donc, qui a été écrit il y a environ 5000 ans où ils annoncent l'avatar Chaitanya Mahaprabhu.
Alors, indirectement. Il n'y a pas le mot, il y a pas Mahaprabhu dedans, quoi, ce qui est intéressant.
Il n'y a pas Mahaprabhu dedans, mais je le lis. Dans l'âge de Kali, paraîtra l'avatar des saints noms de Krishna qu'il chantera sans cesse. Bien que son teint ne soit pas celui d'un nuage de pluie, il sera Krishna en personne et les hommes d'intelligence l'adoreront en adhérant à son mouvement de Sankirtana. Srimad Bhagavatam 11, 5.32. Voilà.
Ah ouais, on peut vraiment le unpack ce verset. Avant de parler de Chaitanya spécifiquement et de ce verset, qu'est-ce que tu crois si on parlait du concept même de l'avatar, de l'idée de Dieu qui descend, le mot même avatar, il y a probablement des gens qui écoutent ce podcast qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et cette notion de bimonothéisme polymorphique dont on parlait, ça te dit hein?
Oui, qu'on souligne. En fait, le Seigneur suprême, il descend à différents âges pour établir le dharma, donc la religion éternelle, et souvent pour tuer, enfin dans les âges précédents, pour tuer des démons, pour établir la justice et donner des voies spirituelles aux hommes, en fait.
Là, tu me rappelles le verset de la Bhagavad Gita. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, la Bhagavad Gita, c'est le texte principal qu'on cite, le texte qu'on peut dire le plus connu de toutes les traditions de l'Inde. Et qui est énoncé par Krishna lui-même, soi-disant, supposément, on le croit. Et il y a un verset donc très connu, qui est surtout connu en Inde, parce que, je ne sais pas, il y a une série télévisée sur le Mahabharata.
Je ne l'ai pas vu, Cyril.
Et moi non plus, parce que j'aime pas trop les séries télévisées bollywoodiennes. Mais bon, bref, bien que le sujet est supposé être transcendantal, mais au trailer du début, à la bande-annonce, il y avait une voix rauque qui disait Yada, Yada, Hidharmasya, Glanir, Bhavati, Bharata. Et donc, tout le monde en Inde, même tous les hindous, en tout cas en Inde, en tout cas il y a 20 ans, même s'ils n'avaient jamais lu un verset de la Bhagavad Gita, tu leur demandes c'est quoi votre verset favori de la Bhagavad Gita, et ils te disent tous Yada 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 Masya, pas parce qu'ils l'ont lu, mais plutôt parce qu'ils ont regardé la télé quand il y avait cette série télévisée. Mais tu fais allusion à ce verset en fait. Yada Yada Hi Dharma, il y a le mot Dharma, Yada Yada Hi Dharma Sya Glanir Bhavati Bharata.
Je viens rétablir le Dharma.
Je viens établir le Dharma, et quand, à chaque âge, quoi, encore et encore, je viens en ce monde.
Donc, dans le schéma de Bhagavatam, il y a 22 avatars, il me semble, qui sont annoncés. Il y a Kurma, l'avatar tortue, Vara, l'avatar sanglier.
On parle toujours d'un dieu qui a une personnalité distincte, mais qui puisqu'il est tout puissant, se transforme littéralement.
Il vient sous différentes formes.
Mais c'est toujours le même.
Sa forme originelle, c'est Krishna, parce que c'est dans la Brahma Samhita, il est dit que Krishna est la forme originelle de Dieu, en fait.
Et même dans ce chapitre dont que tu cites, là, le chapitre de la liste qui est très courte, hein, parce c'est décrit qu'il y a un nombre infini d'avatars, mais dans ce court chapitre où il y a juste quelques avatars clés qui sont mentionnés, à la fin, tu sais, il y a ce verset Ete Chamsa Kala Pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam, que Krishna et n'est pas un avatar, mais plutôt est la source ou est l'avatari, l'originel.
Oui, la source de tous les avatars, oui, tout à fait. Oui.
Est-ce que tu as vu le film Transformers, qui est sorti il y a 5-6 ans, ou il y a une dizaine d'années?
Non, pas du tout, non.
C'est un truc hollywoodien, et c'est l'histoire de robots extraterrestres très sophistiqués qui viennent sauver l'homme sur Terre. Et qui vient sur Terre, ils viennent sur Terre et ils se camouflent, si tu veux, ou ils se transforment en voiture. Et donc les gens croient qu'ils sont en train de conduire une voiture, mais en fait ils sont sur un de ces robots héros. Et quand le moment est venu, bah tu les vois sortir de leur forme de voiture en robots héros, quoi. Mais c'est toujours, quand ils sont en forme de voiture, c'est toujours les mêmes robots. C'est-à-dire, ils ont toujours, si les robots ont une personnalité, ça, c'est tout le transhumanisme, le thème qui nous tape dessus à chaque fois de Hollywood, comme si les robots avaient une personnalité, c'est n'importe quoi. Mais bon, en assumant qu'ils ont une personnalité, quand ils sont sous leur forme de voiture ou quand ils sont dans leur forme originelle à deux bras et tout, c'est toujours les mêmes personnes, entre guillemets, quoi. Donc, j'aime bien cette analogie avec cette notion d'avatar.
Il peut prendre toutes les formes, en fait, c'est ça. Il est la source de tout en tant que Krishna. Et oui, tu parles de... Effectivement, avec sa Shakti Radharani. Et ce qui est intéressant dans l'avatar Chaitanya Mahaprabhu, c'est que c'est Krishna avec les sentiments de Radharani. En fait.
Alors là aussi, il faut qu'on discute à propos de Radharani. Mais avant d'y aller, je t'en prie, passons un peu plus de temps, s'il te plaît, pour moi, parce que moi, j'aime bien parler de cette notion juste théorique.
Sur les avatars, tu veux dire?
Bah ouais, de l'avatar. Et parce que souvent, il y a pas mal de gens qui comprennent ce que ça veut dire, grosso modo, l'avatar, mais ils pensent que Dieu est impersonnel, n'a pas de forme, et que cette sorte de d'énergie impersonnelle se manifeste à travers différents récipients, disons, qui sont en fait vides, mais bon, ils sont juste remplis temporairement par cette énergie impersonnelle que est Dieu. Et que donc qu'on parle de Jésus ou de Krishna ou de Vishnu ou de Ganesh ou de n'importe quoi, ultimement, ces formes-là sont illusoires et temporaires. Et ultimement, ce qui est vraiment important, c'est le non-dualisme au-delà de toute forme, quoi. Et donc, cette notion d'avatar, c'est juste un truc temporaire à travers laquelle une lumière omniprésente se manifeste. Mais nous, en tant que Vaishnav, en tant que dévot de Vishnu ou de Krishna, on n'est pas d'accord avec ça. Tu es d'accord?
Non, bien sûr.
Alors, explique, s'il te plaît, pour nos écouteurs, comment est-ce qu'on ne serait pas d'accord avec cette notion ou cette définition d'avatar?
Dieu est une personne propre avec qui on peut établir un lien, une relation. On avait parlé, il y a effectivement Sakya, l'amitié. Enfin, il y a différents types de relations qu'on peut avoir avec Dieu ou une relation d'amant-maîtresse. Enfin, et c'est une personne...
Une personne, c'est quoi. C'est ça qui est important. Nous, on croit que Dieu est une personne, quoi. Vraiment une personne.
Un corps spirituel. Un corps spirituel, tout à fait.
Et ça, c'est hyper important parce que là, quand on ajoute donc cette notion d'avatar, c'est pas juste une lumière qui se manifeste à travers un récipient comme qu'on appelle temporairement Krishna ou Vishnu ou Ganesh, etc. Mais c'est carrément Krishna lui-même avec son corps éternel transcendantal qui descend en ce monde lui-même ou alors déguisé ou dans une autre forme qui est 100% la sienne quand même.
Ramachandra, tout à fait, oui.
Qui demeure toujours la sienne, quoi. Donc, polymorphisme ou polymorphique.
Polymorphisme, en sachant que la source est Krishna, effectivement.
D'après alors maintenant, toi, tu voulais parler de Radharani. Tu as été très impatient.
Radharani,
alors, explique-nous, parce que là, Radharani, il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Le mot Shakti, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Et donc, quand on parle de bimonothéisme, et en plus, qu'est-ce que ça, c'est relié à Chaitanya Mahaprabhu, faut vraiment expliquer, quoi.
Alors, dans notre voie, il y a un couple divin, en fait.
Donc, ce n'est pas vraiment du monothéisme, c'est un peu du bimonothéisme, parce que c'est Dieu avec son énergie féminine.
En sachant qu'ils sont non différents.
En sachant qu'ils sont en même temps non différents.
Et l'énergie féminine correspond à l'énergie de Krishna, et donc cette énergie est Radharani, en fait. Et voilà.
Alors, on voit souvent des images de Krishna avec une belle femme à ses côtés, une déesse, la déesse par excellence, quoi, qui a dans nos traditions le nom de Radha ou Radharani.
Qui est d'ailleurs la source de Lakshmi, qui est la source de toutes les entités. Déesses. Les déesses, les entités féminines. Oui, tout à fait.
Et même des âmes elles-mêmes, quoi, on pourrait dire. Donc même de nous, quoi, parce que il est dit que les âmes que nous sommes, des âmes petites âmes infinitésimales, sont des émanations qui ont leur origine en cette déesse suprême qui est l'énergie interne de Dieu. C'est bien ça, non? Je vais mettre la batterie. Hein.
Vas-y, continue.
Alors, maintenant qu'on a parlé de ça, Chaitanya Mahaprabhu, quand il vient en 1486, quand il se manifeste dans ce monde, il vient en tant que Krishna, mais avec les sentiments de sa compagne éternelle, qui est Radharani, en fait. Et donc, lors de son avènement, on peut dire, par exemple, le moment de sa naissance est décrit dans le Chaitanya Charitamrita, où il est décrit ainsi: des quatre points de l'horizon arrivèrent des vagues de joie, et tous les êtres mobiles et immobiles se sentirent envahis d'une jubilation sublime. Sri Advaita Acharya, dans sa maison de Shantipura, se mit à danser d'extase et à chanter à grande voix le mantra Hare Krishna. Nul n'en pouvait saisir la raison. Tous les dévots du Seigneur, dans quelques villes ou contrées qu'ils se trouvaient, dansèrent, célébrèrent le Sankirtana et firent en pensée des dons charitables, leur mental débordant de félicité. Donc c'est dans la Lila 13, 97, 99, 103.
Parlons un peu de cette notion de Sankirtan. En fait, c'est Sankirtan, on peut dire Sankirtana, mais souvent on dit aussi Sankirtan. Hein, tu serais d'accord si on disait que... Enfin, on serait correct à dire que selon les textes... Et là, quand on parle de Chaitanya Mahaprabhu, comme tu l'as fait, Georges, tu as fait référence à un verset dans le Srimad Bhagavatam, donc qui fait partie d'un corpus très ancien au niveau temps, quoi. Mais... il y a beaucoup plus de références à Chaitanya dans des textes, disons, d'une deuxième vague de Vaishnavisme qui est venue donc au Moyen-Âge, aux environs des années 1500, 1600, 1700. Et donc là, on parle d'un corpus de textes qui ne sont pas écrits d'abord en sanskrit, mais plutôt en bengali classique, et qui sont beaucoup plus récents, quoi. C'est des textes qui ont 500 ans, mais...
Notamment les textes de Jiva Goswami, des Sri Goswami. Il faudrait... Alors, donc, en fait, Chaitanya, il vient. On peut décrire rapidement sa vie, peut-être, Cyril, je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, oui.
Il vient et, en fait, pour donner l'exemple aux hommes, il prend l'ordre du renoncement après cette mariée avec Lakshmi Devi et Vishnu Priya, en fait. Mm. Donc, Lakshmi Devi, elle décède d'une morsure de serpent.
Et qui est aussi symbolique d'une morsure de séparation, parce que c'est quand il est parti aujourd'hui au Bangladesh pour aller faire une tournée de conférences, et c'est à ce moment-là que sa première épouse est décédée.
Et Vishnu Priya, et il prend l'ordre du renoncement quand même, et il prend l'initiation pour donner l'exemple aux hommes, en fait, Donc, il prend l'ordre du renoncement.
À l'âge de 24 ans. Donc, l'ordre de renoncement, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu ce qu'on voit encore même au Japon, par exemple, où tu as des politiciens qui, à 65 ans ou à 60 ans ou à 75 ans, arrêtent leur business et joignent un monastère et renoncent, disons, à la vie sociale, à la vie... Et donc, généralement, dans la tradition védique ou du Sanatana Dharma, ou qu'on voit répandu partout en Asie du Sud, quoi, et pas seulement en Inde, ça se fait généralement plus tard dans la vie, quoi. Une fois que les enfants et les grands-enfants ont grandi et tout, et on s'est mariés. Mais là, il l'a fait à 24 ans. À 24 ans, ouais. À 24 ans. Donc, il passe 24 ans à Mayapur. Et après, il voyage pendant 16 ans, tout autour de l'Inde.
Oui.
Et après, il passe Non. Il voyage pendant 8 ans.
Après, il passe le reste de ses jours à Puri.
Pendant 16 ans.
De Mère Sachi, en fait.
Il passe 8 ans à voyager autour de l'Inde. Et après, il s'installe à Jagannath Puri, au bord de la mer. Et ce que je trouve génial, si je peux partager ça avec toi, et j'espère que nos lecteurs trouveront ça sympa, mais... Nous, on croit que donc Chaitanya Mahaprabhu, c'est Dieu. Il a passé 48 ans sur Terre. Sur les 48 ans, il a passé 16 ans sur la plage. À la plage, quoi. Donc, eh ouais, il aurait pu aller dans à la montagne, dans une prairie. 16 ans, pieds nus, à la plage, en train de se baigner, quoi. Tellement cool, ce Dieu. Trop cool, quoi. C'est
vrai que comme il est très miséricordieux, il y a aussi les principaux préceptes qui enseignent, c'est chanter le mantra Hare Krishna, Krishna 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 et Ram 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 Hare Hare, et à offrir la nourriture à Dieu et manger les restes offerts à Dieu, qui est le prashadam, qui est une nourriture délicieuse qu'on a dans tous les temples à Krishna et en Inde et ailleurs, quoi, en fait.
T'as touché. Excuse-moi, vas-y.
C'est une voix qui est assez agréable. En fait, on chante, on danse et on se nourrit des restes offerts au Seigneur. Donc
Je trouve que j'aime bien ce que tu as dit. Tu as touché un thème qui est super important, je crois, quand on parle de Chaitanya Mahaprabhu, c'est cette notion de miséricorde. Et Chaitanya Mahaprabhu est décrit en sanskrit comme Mahavadanyaya, le plus miséricordieux, c'est-à-dire... Hein, c'est ça, Krishna est venu, soi-disant, il y a 5000 ans.
Il délivre
tout le monde, quoi, les plus déchus.
Il délivre tout le monde, il délivre un enseignement qui est rarement atteint.
Et dont la pratique est hyper simple, quoi. Juste chante avec Krishna, chante les noms de Dieu et puis c'est tout, quoi.
C'est ça.
Donc je disais juste Krishna, soi-disant, parce que bon, moi je suis pas sûr, Krishna est apparu il y a 5000 ans, je suis pas sûr si c'est Dieu, je le crois, mais j'aime bien par respect envers un peu la science de l'objectivité, dire ouais, supposément, il est dit que, bref, Krishna était là il y a 5000 ans et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accroché à son message. Et donc, nos saints dans nos traditions disent que bon, bah, Krishna s'est dit bon, je vais revenir 4500 ans plus tard. Et là, ça va être carrément. Les prix sont. Comment est-ce qu'on dit quand tu as des soldes? Des soldes, mais monstrueuses, quoi. Là, ça va être les soldes, les soldes des soldes spirituels. Et donc,
ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est l'avatar caché, en fait.
En plus, c'est un avatar caché. Ça, c'est un autre thème à toucher, quoi.
Par exemple, un livre comme le Chaitanya Charitamrita qu'on a lu tous les deux, c'est considéré comme des écrits secrets, en fait, et qui sont d'une beauté inouïe, en fait, où ils décrivent les rapports du Seigneur avec ses dévots. Il y a des passages superbes, par exemple avec le roi
Prata Parudra.
Oui, merci. J'écorche toujours son nom. Qui est un roi, en fait, qui est un personnage important de Puri.
Donc Puri, pour les gens qui ne savent pas, c'est donc cette ville au bord de la mer dans l'état de l'Orissa où il y a cet énorme temple qui existe depuis des milliers d'années, où il y a cette forme précise de Krishna sous la forme de Jagannath. Et c'est là où Chaitanya Mahaprabhu a décidé de squatter, entre guillemets, transcendantalement pendant 16 ans. Et le roi, donc... juste au bord de la mer, quoi. Et
le roi... Pour rester à côté de sa mère.
Pour rester à côté de sa mère. C'est vrai, parce qu'en tant que renonçant, il n'avait pas vraiment... C'était pas trop socialement accepté de retourner vivre là où il y avait sa famille, y compris sa mère. mais sa mère lui manquait énormément. Et donc, il a dit, bon, bah, d'accord, je suis d'accord, je m'installe à Puri, comme ça, au moins, c'est parce que Mayapur, dans le Bengale de l'Ouest, et l'Orissa, Jagannath Puri, c'est pas trop loin, quoi. Un bon point. Donc, je t'ai interrompu, le roi de Puri et le roi de la région, un grand dévot de Krishna, le roi Prataparudra. Vas-y, s'il te plaît, continue.
Prataparudra, merci, je vais y arriver. Et donc, en fait, il veut à tout prix rencontrer le Seigneur, en fait. Et donc, il se rapproche de ses associés pour lui demander si c'est possible de rencontrer Chaitanya Mahaprabhu. Et à chaque fois, Chaitanya, il refuse parce que il évite, en tant que renonçant, il évite les hommes de pouvoir, les femmes, enfin, comme un moine doit faire, en fait. Et donc, ce roi, il réfléchit à beaucoup de stratagèmes, il lui envoie son fils, et Chaitanya Mahaprabhu, il est émerveillé par la beauté de son fils, en fait.
Qui lui rappelle puis, Krishna. Parce que son fils avait un teint bleu, un peu comme Krishna, quoi, c'est ça?
Voilà, c'est ça, oui. Et en fait, il aborde tout un stratagème pour un moment, lors du Ratha Yatra, s'approcher de Mahaprabhu.
Mais attends, tu as oublié d'ajouter un détail énorme dans cette histoire. Parce que qu'est-ce qui se passe, si je me souviens bien? Le roi envoie son fils, Chaitanya Mahaprabhu l'embrasse ou l'étreint, oui. Et... l'auteur du Chaitanya Charitamrita dit que ce prince, c'était un être ordinaire. Bon, c'était un bourgeois, un aristocrate, mais ce n'était pas un grand dévot de Dieu, quoi. Mais juste en étant étreint par Chaitanya Mahaprabhu, c'est décrit dans le texte lui-même, il est devenu comme ça, immédiatement, un des associés les plus intimes de Dieu, de Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu lui-même, quoi. C'est énorme.
Il finit par pouvoir l'approcher, lui lire des versets du Srimad Bhagavatam sur Radha et Krishna.
Ah ouais, là, le roi se déguise en renonçant, quoi.
Il se déguise en renonçant, il se présente en tant qu'un simple dévot de Krishna.
Mendiant dans l'art du renoncement.
Et là, Krishna le prend Chaitanya Mahaprabhu le prend dans ses bras, et c'est un divertissement sublime. Et tous les rapports dans le... de Chaitanya sont de cet ordre-là. Alors ce qu'on peut dire aussi, Cyril, je ne sais pas ce que tu en penses, on ne s'est peut-être pas très bien organisé, mais on pourrait dire qu'il vient avec tous ses associés quand même aussi. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça, Cyril? Tu connais mieux peut-être.
Bon, je ne sais pas si je connais mieux, mais puisque tu me demandes... Ouais, cette notion que Dieu... parce que j'aime bien aller de l'universel au particulier, quoi. Donc, au niveau, disons, universel, il y a cette idée, cette notion que Dieu... Donc, comme tu l'as très bien dit, est une personne. Et donc, s'il est une personne, il a des relations. Et il y a donc un nombre quasiment, ou probablement même pas quasiment, mais carrément illimité d'âmes libérées qui sont au royaume de Dieu avec lui et qui n'ont aucune faille matérielle comme nous. Et qui sont donc en relation éternelle avec lui de pur amour, qui lui donnent leur amour pur à lui, et lui qui réciproque et leur donne son amour. Et quand, en revenant à cette notion d'avatar, quand ce Dieu, quand cette personne suprême descend, parce que avatar, ça veut dire ava et tara, ça veut dire quelqu'un qui passe vers le bas, quoi, qui traverse vers le bas. Donc, quand Dieu descend vers le bas dans ce monde-ci dans lequel on est, là, coincé dans ce cycle des réincarnations depuis X millions d'incarnations, de vie, tantôt homme, tantôt femme, tantôt français, américain, etc., différentes espèces de vie, quand Dieu lui-même vient en ce monde, il ne vient pas seul. Je crois que c'est là où tu veux en venir, quoi. Il vient entouré de ses associés éternels qui, eux aussi, bah, font un sorte de voyage accompagnateur qui accompagne le Seigneur quand il descend en ce monde, et il au pluriel accomplissent des... Et donc c'est là cette notion de divertissement, quoi. Les activités entre ces âmes éternelles qui descendent du royaume de Dieu avec Dieu pour l'assister dans ses divertissements, ben voilà, d'où le mot divertissement ou lila en sanskrit. Donc c'est des actions qui peuvent paraître ordinaires, mais puisque ce sont des activités faites par Dieu lui-même et des âmes qui sont complètement pures, ce sont des divertissements qui n'ont rien de karma, il n'y a rien de conditionnement matériel dedans, c'est simplement des divertissements divins. C'est ça, non ?
Oui, oui, tout à fait. On peut évoquer quelques associés quand même
de Chaitanya. De Chaitanya,
comme Nityananda. Bah,
là, tu as cité Advaita au tout début, hein, quand tu lisais le Chaitanya Charitamrita.
Acharya, bien sûr, oui, 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 oui.
Alors, l'identité de ces associés, ça devient complexe. Hein.
Ça devient un petit peu complexe. Mais on peut dire qu'Advaita, par exemple, c'est Mahavishnu, il faut dire ce qu'il est.
Et Shiva, quoi. C'est Mahavishnu et Shiva en même temps, quoi.
D'accord. D'ailleurs, il rencontre Shiva aussi. Hein. Il y a un divertissement où il rencontre Shiva. Enfin, Nityananda, c'est Balaram.
Alors Balaram, c'est qui ça? Balaram, c'est la première expansion de Krishna, le premier avatar, on pourrait dire, son frère.
C'est ça, c'est son frère, et qui représente le maître spirituel, en fait.
Qui représente le maître spirituel, donc le maître ou les maîtres ou la maître, ou les LES au pluriel féminin, qui nous enseigne la dévotion à Dieu, il ou elle sont représentants, disons, de Balaram. Ou de Nityananda.
Et oui, 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 oui. Et en parlant des associés, on pourrait parler aussi des Sri Goswami, en fait, qui sont là pour retrouver les lieux de Vrindavan, le lieu d'enfance de.
Il y a quelques jours, je crois, si je me trompe pas, je regarde là sur mon calendrier Vaishnav. Avant-hier, il y a 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Il y a 6 jours, c'était le jour où on célèbre la disparition ou le décès d'un des, comme tu dis, un des associés les plus intimes de Chaitanya, notamment Jiva Goswami. J'écoutais juste une classe sur lui ce matin. Apparemment, il a écrit plus que 500 000 versets en sanskrit.
Il a écrit énormément de choses, oui. Oui, oui. Il y a le Gopala Champu, par exemple. Enfin, qui est, enfin...
Et les Sandarbhas, les Sat Sandarbhas.
Donc, en fait, il y a tous ces associés qui ont établi des lignes... Vaishnav, en fait, par exemple, comme il y a les Sri Goswami, donc qui sont allés redécouvrir les lieux de où Krishna a vécu et
donc Vrindavan,
de Vrindavan, l'identité de ces lieux. Et parmi ces Sri Goswami, on peut évoquer deux principaux que sont Sanatan Goswami et puis notre ancêtre spirituel qui est Rupa Goswami, quoi, en fait.
Rupa Goswami, hein.
Et donc, c'est les lignées qui ont été laissées dans le monde pour Chaitanya Mahaprabhu, viennent de ces six Goswami. Et puis, il y a d'autres lignées, d'ailleurs. Il y a énormément de lignées.
Et toutes ces lignées, elles ont quelque chose en commun, et tu l'as mentionné au tout début, c'est cette notion de Sankirtan.
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut parler de Sankirtan? Parce que si on va parler de Chaitanya Mahaprabhu, il faut parler de Sankirtan, quoi. Obligé.
Obligé, oui. Donc, c'est le Sankirtan, c'est le chant congrégationnel des saints noms de Krishna, en fait. Donc, et principalement le mantra Hare Krishna. Donc, c'est chanté en groupe. C'est pour ça qu'on voit en Occident, depuis les années 70, des groupes qui en fait sont issus de cet avatar Chaitanya Mahaprabhu pour répandre le nom de Krishna, en fait. Et donc c'est la méthode prescrite, puisque c'est l'avatar de
pour cet âge de Kali.
C'est la méthode prescrite dans cet âge, c'est de chanter le Mahamantra Hare Krishna, parce que c'est la méthode la plus simple pour se réaliser spirituellement et rejoindre le monde spirituel, en fait.
Et c'est pour ça qu'on dit toujours, en chacun de nos nombreux podcasts, on est au numéro 3, que si vous écoutez ce podcast et si vous n'avez pas encore essayé de chanter les saints noms de Dieu, quelle que soit votre tradition, mais bon, nous, on dirait en particulier les saints noms de Krishna, bah faites-le, bah, essayez, quoi. Essayez, exact, essayez, les bienfaits, hein, de ce chant. Et donc, ouais, Chaitanya Mahaprabhu est descendu principalement pour propager la pratique du chant congrégationnel, comme tu l'as dit, Sam. Dans le mot Sankirtan, il y a ce mot Sam qui vient du mot Samyak, qui veut dire complet, ou comme Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, un grand saint dans notre tradition, disait, ça veut dire donc d'une manière congrégationnelle, ou on peut dire plutôt, pardon, le mot littéral, c'est plus littéraire, c'est littéraire ou littéral, je me trompe, littéral, c'est congrégationnel, mais il y a aussi cette notion de complet, donc avec autrui et aussi avec cette notion de pouvoir utiliser toutes sortes de technologies pour propager
des instruments, de chanter, danser, enfin oui, c'est
des conférences Zoom, des YouTube, des ordinateurs, des instruments de musique électrique.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que autant les associés du Seigneur que sont les Goswami ont laissé une littérature dévotionnelle très abondante, autant Chaitanya Mahaprabhu, il a laissé seulement 8 versets.
C'est intéressant hein, que Chaitanya Mahaprabhu, il a. T'as Jiva Goswami qui écrit 500 000 versets. Aïe, on tente. Attention à ton micro. Mon cher, parce que...
Ah, oui, excuse-moi.
Quand t'as Jiva Goswami qui écrit 500 000 versets, mais lui, Chaitanya Mahaprabhu, en a écrit 8. Attends, tu sais, ton micro, quand tu touches avec les papiers, ça... Boum, ça m'éclate les oreilles. Oui.
Je cherchais le Shikshashtakam.
Ah ouais, lis-le-nous.
Alors, il est un peu grand. Peut-être que je vais. Alors, on va lire le premier verset.
T'as qu'à lire d'un seul coup les 8. Alors là, si vous écoutez là attentivement, nos lecteurs, écoutez bien. Là, c'est un peu long, c'est complexe. On en parlera après. Mais là, ces 8 versets que vous allez entendre là, c'est, on peut dire, c'est l'essence des écrits védiques. Hein,
c'est la quintessence des écrits védiques. Oui.
La quintessence.
Alors, gloire au Sri Krishna Sankirtana qui nettoie le cœur de toute la poussière accumulée depuis des années et éteint le feu de la vie conditionnelle, de la naissance et de la mort répétée. Ce mouvement Sankirtana est la principale bénédiction pour l'humanité dans son ensemble parce qu'il répand les rayons de la lune de la bénédiction. C'est la vie de toute connaissance transcendantale. Il augmente l'océan de la félicité transcendantale et nous permet de goûter pleinement le nectar pour lequel nous sommes toujours anxieux. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset. Ô mon Seigneur, ton saint nom seul peut rendre toute bénédiction aux êtres vivants, et ainsi tu as des centaines et des millions de noms, comme Krishna et Govinda. Dans ces noms transcendantaux, vous avez investi toutes vos énergies transcendantales. Il n'y a même pas de règle stricte pour chanter ces noms. Ô mon Seigneur, par bonté, vous nous permettez de vous approcher facilement par vos saints noms, mais je suis si malheureux que je n'ai aucun attrait pour eux. Troisième verset. On devrait chanter le saint nom du Seigneur dans un état d'esprit humble, se pensant plus bas que la paille dans la rue. On devrait être plus tolérant qu'un arbre, dépourvu de tout sentiment de faux prestige et être prêt à offrir tout le respect aux autres. Dans un tel état d'esprit, on peut chanter constamment le saint nom du Seigneur. Quatrième verset. Ô Seigneur Tout-Puissant, je n'ai aucun désir d'accumuler des richesses, je ne désire pas non plus de belles femmes, ni aucun nombre d'adeptes. Je veux seulement votre service de dévotion sans cause, naissance après naissance. Ô fils de Maharaj Nanda, Krishna, je suis ton éternel serviteur, mais d'une manière ou d'une autre, je suis tombé dans l'océan de la naissance et de la mort. S'il vous plaît, prenez-moi de cet océan de mort et placez-moi comme l'un des atomes à vos pieds de lotus. Sixième verset. Ô mon Seigneur, quand mes yeux seront-ils ornés de larmes d'amour qui coulent constamment quand je chante ton saint nom? Quand ma voix s'étouffe-t-elle et quand les poils de mon corps se dresseront-ils à la récitation de ton nom? Verset 7. Ô Govinda, ressentant votre séparation, je considère un moment comme 12 ans ou plus. Des larmes coulent de mes yeux comme des torrents de pluie et je me sens tout vide dans le monde en votre absence. Et le dernier, je ne connais personne d'autre que Krishna en tant que mon Seigneur et il le restera même s'il me manipule brutalement par son étreinte ou me fait le cœur brisé en étant pas présent devant moi. Il est totalement libre de faire tout et n'importe quoi, car il est toujours mon Seigneur adorateur inconditionnellement. Voilà.
De tous ces 8 versets, quel est le passage que tu préfères? Moi, je te dirai le mien après toi.
J'aime bien, c'est un verset que j'ai du mal à mettre en application, mais être plus humble que le brin d'herbe dans la rue et plus tolérant que l'arbre, c'est un précepte que j'ai du mal à mettre en pratique. Mais je les aime tous, hein, sincèrement. Vas-y, toi.
Le troisième verset, hein. Plus humble qu'un...
Le troisième, tout à fait, oui.
Vas-y, répète de nouveau, parce que c'est vrai que c'est un... Je crois que l'auteur du Chaitanya Charitamrita que tu as cité dit que ce troisième verset, on devrait le... We have to string it. On devrait le... Tu sais, quand tu passes un fil à travers des billes, comment est-ce qu'on dit? Parce qu'en anglais, on dit you have to string it.
Enfiler.
Ouais, tu dois l'enfiler autour ou dans le saint nom et le porter autour du cou pour t'en souvenir constamment.
Alors, je le relis donc. On devrait chanter le saint nom du Seigneur dans un état d'esprit humble, se pensant plus bas que la paille dans la rue. On devrait être plus tolérant qu'un arbre, dépourvu de tout sentiment de faux prestige, et être prêt à offrir tout le respect aux autres. Dans un tel état d'esprit, on peut chanter constamment le saint nom du Seigneur.
Ah, c'est pas évident, hein. Pas vouloir du respect d'autrui. Quelqu'un te manque de respect, tu dis rien. Par exemple, ce matin, je suis allé voir. Non, mais je te dis, ce matin, je suis à Guadalajara, au Mexique, et à 20 minutes de marche, il y a un petit marché avec des stands de jus d'orange, frais, super bon. Donc, j'y suis allé. Buenos días, nana. Et je lui ai commandé un énorme truc de demi-litre, ou non, au moins, c'est bon, presque un litre ou deux, un large size. Parce que je suis un Américain, donc il faut bien que je fasse les trucs à l'américaine au Mexique, quoi. Donc, je commande un large jus d'orange avec des bouts de papaye et moitié orange, moitié pamplemousse avec une banane et des fraises. Et donc, je suis en train de lui commander ça. Et juste là, une femme vient comme ça et elle passe sa commande juste devant moi. Elle me dit même pas bon, elle me regarde même pas. Et le mec aussi, bon, il a dû se dire qu'elle a juste demandé du jus d'orange, donc c'était plus simple. Mais bon, il lui file son jus d'orange, elle le paye, elle part, et elle ne me regarde même pas. Et j'étais furax. Et je lui ai dit au mec, je lui ai dit, t'as vu comment elle est mal élevée? Elle ne m'a même pas dit, excusez-moi d'avoir passé devant vous, monsieur. J'aurais dit, bien sûr, madame, il n'y a pas de problème. Mais elle n'a même pas fait ça. Et en fait, non. Là, selon ce que tu viens de lire, vouloir donner tout respect à autrui et en vouloir aucun pour nous. Quoi.
Oui, il y a du chemin à parcourir pour nous. Mais...
Moi, j'aime le quatrième. Bon, j'aime pas le début du. Enfin, ouais, le début du quatrième, il est dur, quoi. Quand tu dis, Monseigneur, je veux pas d'argent, je veux pas de femme, je veux pas de renommée, dur, quoi. Parce que on veut tous ça, quoi. En ce monde, on veut tous que ce soit.
Si tu veux, je le relise, Cyril, non?
Ouais, mais je me bouche les oreilles. Vas-y.
D'accord. Commence. Ô Seigneur Tout-Puissant, je n'ai aucun désir d'accumuler des richesses, je ne désire pas non plus de belles femmes, ni aucun nombre d'adeptes. Je veux seulement votre service de dévotion sans cause, naissance après naissance.
Et c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est ça que je trouve extraordinaire, cette notion de... D'ailleurs, si vous êtes là en train de nous écouter, dimanche, on va avoir une discussion avec Maxime de la chaîne YouTube Sadhana TV. Et c'est un type très gentil, super doux, qui fait partie donc d'une autre tradition sous le parapluie du monde védique ou des différentes traditions Sanatana Dharma qui suivent les Védas, plus ou moins les mêmes textes que nous, mais qui ont une conclusion assez différente, quoi. Lui, il est très dans la non-dualité. Si je me trompe pas, j'ai quand même eu quelques rapports sympas avec lui. Et donc, cette notion de libération, de se libérer du cycle des naissances et des morts, de plus renaître dans le samsara, de se libérer comme but ultime, hein, et de se fondre en plus dans la lumière. Pour nous, les Vaishnavs, les dévots de Krishna, les monothéistes,
c'est une réalisation insignifiante, oui.
C'est insignifiante. Et d'ailleurs, et donc, dans ce verset-là, si je peux, à la fin, Chaitanya Mahaprabhu dit « Mama Janmani Janmani Shvare ». Janma, ça veut dire « naissance » en sanskrit. Donc, je suis prêt, comme tu l'as lu là, je suis prêt, je veux juste te servir vie après vie. C'est-à-dire, je m'en fiche. Si tu veux me libérer, si tu veux que je retourne à ton royaume, super, je veux dire, bien sûr, c'est génial.
Oui, ils veulent juste réciter le mantra Krishna, oui.
Moi, je veux juste réciter son saint. Si je dois renaître 5000 fois encore, ou 10 000 fois, aussi longtemps que tu dignes, enfin, tu crois que c'est nécessaire pour ma réformation, pour ma purification, ainsi soit-il, mais je veux juste, et c'est pour ça que t'as par exemple Bhaktivinoda Thakur, donc qui est un de nos saints assez récents, quoi, disons mi-1800, ou début 1800, 1800, quoi, 19e siècle, qui dit, moi, ce que je veux, tout simplement, c'est renaître même comme un chien, mais que ce soit un chien qui vive dans la maison de ton dévot, mon Seigneur.
Oui, où il y a des saints qui disent comme une poussière à tes pieds, quoi. Oui, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler, Cyril, qu'il y a certains saints qui ont vu directement le Seigneur Krishna, et il paraît qu'une fois que tu as vu le Seigneur, il n'y a plus rien dans ce monde qui t'intéresse.
Il n'y a plus rien qui t'intéresse dans ce monde. Et c'est intéressant parce que Krishna, dans la Bhagavad Gita, dans ce verset 9 du chapitre 4, Janma karma chame divyam evam yoveti tatvataha tyakta deham punar janma naiti mamensisorjuna, il dit ceux qui connaissent, ne serait-ce qu'un peu, la nature transcendantale de mon avènement, de mes activités, de ma personnalité, ne renaissent plus. Je les ramène à mon royaume quand ils meurent.
Alors, oui. Excuse-moi. Il y a plusieurs bénédictions de ce type. C'est pareil, si on sait que l'âme qui est dans le cœur et l'âme suprême qui est dans le cœur aussi sont toutes les deux dans le cœur.
T'as Dieu qui dit, je te promets. La promesse de Dieu, c'est que si on se dévoue à lui, il nous ramène chez lui. Mais ce qui est beau dans notre tradition, c'est que le dévot ou la dévote, lui ou elle, dit, je veux pas retourner au royaume, je veux pas aller au royaume de Dieu, je veux simplement te servir, même vie après vie. La seule chose qui compte pour moi, c'est le service, ici ou au royaume de Dieu. Et donc, cette notion de libération, cette obsession avec la libération disparaît. C'est plus du tout une motivation pour le dévot ou la dévote de Krishna. Et je trouve ça magnifique.
Parce qu'il faut rappeler que le pur amour est complètement désintéressé.
C'est ça, exact. Le pur amour est désintéressé.
Au service de l'autre, en fait.
Et vouloir être libéré, c'est un peu un désir égoïste, hein ?
Oui. C'est moins rajasique, on va dire, enfin, dans le mode de la passion. Mais
c'est moins égoïste.
Le vrai amour désintéressé, on veut juste le bien de l'autre et le servir l'autre et
sans rien en retour, y compris
sans rien attendre en retour, évidemment.
Y compris le salut, quoi. Moi, je me rappelle, si je peux te partager ça, il y a 3 ans, je voyageais avec un sannyasi du mouvement Hare Krishna qui s'appelle Ridayananda Goswami, docteur Howard Resnick. On était en Italie. Et à un moment, je me rappelle, je lui ai demandé, comme ça, je lui ai dit, mais vous, quand vous allez mourir, vous voulez retourner au monde spirituel ou vous voulez renaître? Et il m'a regardé et je te jure, il était vraiment, il faisait pas de cinéma. Il m'a dit, je m'en fiche. Franchement, je m'en fiche. J'ai mon service ici et donc je sers Krishna ici-bas et là-bas, je servirai Krishna aussi. Donc, peu importe, quoi. Et moi, j'étais vraiment impressionné quand il m'a dit ça, quoi.
Oui, c'est ça. On veut juste servir Dieu. Voilà. Donc, pour Chaitanya Mahaprabhu, il a quitté ses divertissements en 1534, c'est ça, pour resituer un peu. Donc,
c'est 48 ans plus tard.
48 ans plus tard, voilà, c'est ça. On peut parler de ses divertissements un peu
C'est quoi ton divertissement? Peut-être qu'on peut chacun raconter son divertissement favori.
J'aime beaucoup celui dont on a parlé du roi.
Ah ouais?
Oui,
Comment ça se fait que tu aimes? Moi, ça m'a surpris que tu cites ce divertissement.
Je trouve ça vraiment touchant parce que c'est un roi qui est un vrai bhakta, en fait. Et qui
un vrai dévot, quoi.
Et qui est prêt à renoncer à son trône pour servir Dieu, en fait.
Ouais.
Mais il y a des histoires qui me touchent beaucoup, comme par exemple, tu sais, il y a un des disciples de Chaitanya Mahaprabhu qui avait un chien.
Et oui, Shivananda Sen.
Et un jour, il surprend Chaitanya Mahaprabhu qui fait réciter le mantra, qui donne de la pulpe de noix de coco au chien et qui lui fait réciter le mantra Hare Krishna. Et ce chien, il a rejoint les planètes de Vaikuntha, donc le monde spirituel. En fait, c'est que des histoires très belles. Et notamment quand il va à Vrindavan, tu sais, il y a aussi des choses où il y a les tigres qui
sur la route,
chantent Hare Krishna.
Il y a carrément des tigres et des éléphants qui commencent à chanter.
Qui chantent le mantra. Et,
qui s'embrassent avec les lions.
C'est ça. Et on se rend compte qu'on est dans le pur amour divin, en fait. Voilà. Tu as un divertissement que tu affectionnes particulièrement, Cyril?
Moi, j'aime bien l'histoire de le classique de Jaga et Madai, quoi. L'histoire des deux truands déchus de l'époque de Chaitanya Mahaprabhu avant qu'ils prennent l'ordre du renoncement. Moi, ce que j'aime beaucoup, tu sais, pour te dire la vérité, j'aime beaucoup les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu avant qu'il prenne l'art du renoncement, quand il est encore marié Et quand il est à Mayapur, et quand donc il passe 3-4 ans là, avant de prendre l'ordre du renoncement, je trouve que pour nous, toi, moi, et pour la communauté Vaishnava dans le monde entier, et pour, je dirais, le monde entier, c'est des divertissements qui sont très, 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 très importants. Sinon pas pour une raison, c'est que 99% des êtres humains qui sont dévoués à Dieu ne sont pas et ne seront jamais des moines. On est d'accord. Et donc, quand Chaitanya Mahaprabhu prend l'ordre du renoncement, là, il montre l'exemple comme le moine par excellence, quoi, le moine idéal. Et donc, c'est un exemple exalté, mais auquel on peut pas, auquel un très peu nombre d'êtres humains peuvent s'identifier au niveau, disons, profession, quoi, hein. Tandis que quand Chaitanya Mahaprabhu est à Mayapur, sa profession, c'est d'être prof. Il est prof de sanskrit.
De grammaire.
Oui, de grammaire. Et mais en même temps, il est le leader, il est le pasteur par excellence de toute la communauté des dévots et des dévotes de Krishna à Mayapur. Et donc, pour moi, c'est l'exemple idéal pour nous tous quand je dis ça, c'est à 99% des cas, qui vivent une vie de famille, qui vivent dans la société, qui paient leurs impôts, qui ont des devoirs envers la famille, envers la société, envers leur entreprise, envers leur carrière, etc., 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 et qui peuvent donc, en suivant son exemple, non seulement développer des niveaux d'amour de Dieu exaltés, mais qui peuvent aussi, s'ils se sentent inspirés, eh ben, prendre les rênes et devenir des leaders, carrément, des leaders, des exemples et des inspirateurs, ou des inspirations pour d'autres gens qui sont dans un contexte similaire.
On pourrait parler des joutes un petit peu verbales qu'il y a eu avec certains maîtres où en fait, il y avait des joutes un peu comme ça, où il a défait des grands maîtres de l'Advaita Vedanta ou des choses comme des impersonnalistes. En fait,
qui sont passés à Navadvip quand il était jeune. Ces divertissements de tout jeune aussi sont exquis. Hein. Quand il est tout bébé, enfin pas bébé, mais quand c'est un jeune garçon, et personne à Mayapur se rend compte qu'il est Krishna. Et
tout le monde est subjugué par sa beauté.
Tout le monde est subjugué par sa beauté. Il y a cette histoire, tu sais, du brahmana qui est un brahmana errant. Donc, brahmana, donc un sort de la classe de l'intellectuel, de prêtre. Et il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont errants. Donc, il y en a un qui est errant et qui passe par Navadvip. Et c'est donc un brahmana dévot de Krishna en particulier qui se fait inviter par le père de Chaitanya Mahaprabhu chez lui. Tu te rappelles? Et donc, il y a une petite statue de Krishna.
Il cuisine pour Krishna, c'est ça?
Il cuisine pour Krishna. Et donc, il c'est assez tard dans la nuit. Chaitanya Mahaprabhu, en tant que bébé, donc il s'appelle Nimai à l'époque, est déjà au lit. Tu as le père de Chaitanya Mahaprabhu qui fournit le riz et les légumes à ce brahmana et qui lui dit « Oui, s'il te plaît, c'est mon honneur que tu cuisines chez moi. » D'ailleurs, j'adore cette notion d'hospitalité, quoi. Tu vois, une hospitalité tellement, tellement développée, quoi. L'invité, enfin, n'importe qui vient taper à ta porte, il est envoyé par Dieu, il faut s'occuper de lui. C'est pas comme dans beaucoup de cas aujourd'hui. Bref, il lui donne toutes les facilités pour cuisiner. Le brahmana cuisine. Et il fait une offrande à Krishna. Il dit, s'il te plaît, Krishna, accepte cette offrande.
Et il se retourne. Mange à chaque fois.
Et Chaitanya Mahaprabhu vient à quatre pattes et il mange l'offrande. Et donc là, toute la famille, oh non, on n'a pas fait attention, je suis désolé que le bébé est venu, il a mangé l'offrande avant que tu la fasses ou pendant que tu es en train de la faire au Krishna et tu dois refaire l'offrande. Et le Brahma dit, non, mais ça fait rien, bon, pas de problème. Donc il recuisine une nouvelle offrande, quoi. Donc une heure qui passe. Et là, cette fois-ci, les parents, ils mettent Chaitanya Mahaprabhu dans sa chambre, fermée à clé. Mais puisque c'est Dieu, il arrive à tout faire. Et donc, quand l'offrande est en train d'être faite par ce brahmana, Chaitanya Mahaprabhu vient encore une fois, il mange l'offrande sur l'autel. « Ah non, quelle heure, mais comment, mais t'as pas fermé la porte à clé? Mais si, je l'ai fermé à clé, mais alors comment est-ce qu'il est venu et tout ?» Et là, il dit, bon, bah, ça fait rien, je vais pas cuisiner, on dirait que Dieu veut pas que je mange ce soir. Non, non, s'il te plaît, cuisine encore une dernière fois, s'il te plaît. Donc, il cuisine. Et là, ses parents, ils vont se coucher, en fait, parce qu'il fait déjà tard. Donc, il n'y a plus personne d'éveillé dans la maison.
Et donc, il voit Chaitanya Mahaprabhu, c'est ça le...
Et là, il voit Chaitanya, bah, il l'a déjà vu, mais là, cette fois-ci, Chaitanya Mahaprabhu mange son offrande. Et ce brahmana se lamente et dit, mais alors, pourquoi? Et là, Chaitanya Mahaprabhu lui dit, mais attends, je comprends pas. tu me fais une offrande, deux fois tu me demandes de la manger, alors je viens la manger, et quand je la mange, tu te fâches. Et là, il révèle sa forme originelle de Krishna. Et il lui dit, voilà, en fait, je suis carrément Krishna, quoi. Mais ne le révèle à personne. Sinon... D'ailleurs, c'est drôle parce que le texte, le Chaitanya Bhagavat dit que... Enfin, l'auteur du Chaitanya Bhagavat, dans lequel ce texte, ce passage est décrit, que ce petit Chaitanya Mahaprabhu dit au Brahman, si tu révèles, si tu racontes cette histoire, tu seras détruit. Ça, j'ai toujours pas compris, mais...
Oui, il y a des choses comme ça. Il y a des choses qui sont extrêmement secrètes, en fait.
Ça, j'aime beaucoup. J'appelle ça double yoga maya.
Ce qui est important de souligner, c'est l'extrême humilité de la personne suprême, en fait. C'est-à-dire qu'il est Dieu, la personne suprême, et jamais il se dit avatar. Il agit avec humilité, alors que c'est...
Que c'est Dieu lui-même, quoi.
Que c'est Dieu lui-même.
Ouais, super.
C'est bon. Vraiment exemplaire.
Moi, j'ai environ 10 minutes qui me restent, ou moins, parce que je suis dans un ashram, là, et il y a une heure précise pour le déjeuner, et il faut que j'y aille, quoi.
J'ai une petite phrase de conclusion tirée du Chaitanya Charitamrita, si tu veux.
Ah ouais, s'il te plaît.
Sri Krishna Chaitanya montre une miséricorde toute spéciale à celui qui écoute le récit de son avènement et lui donne d'atteindre les pieds pareils au lotus du Seigneur. Donc c'est Adi Lila 13, 12, 122. Voilà.
Donc on peut dire qu'on a été béni là, parce que là on a quand même narré les histoires et la philosophie du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Ceux qui ont écouté eux aussi, vous avez entendu à propos de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc selon l'autorité selon l'auteur du Chaitanya Charitamrita, ben on est tous bénis, quoi.
Voilà.
En conclusion, on est tous bénis. Bien, on vous remercie d'avoir écouté ce troisième podcast. À dimanche, où on aura une conversation assez intéressante qui vous montrera les similarités et les différences entre la tradition monothéiste et la tradition non-dualiste de l'hindouisme. Et merci encore pour écouter et d'être là avec nous. Et bonne semaine en dévotion à Dieu.
Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt.